Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve François-Pierre Niseri.
Chers auditeurs de Canal Academy, bonjour et bienvenue dans la rubrique Revue littéraire de l'émission Au fil des pages, consacrée aujourd'hui à Présence africaine. Alors, Présence africaine, c'est la revue de l'Afrique, pour l'Afrique, par l'Afrique. C'est la voix de l'Afrique. De l'Afrique noire, essentiellement. On dit aujourd'hui, d'ailleurs, pudiquement, l'Afrique subsaharienne. L'Afrique noire, dans toute sa complexité et toute sa limpidité, je dirais. Alors, cette revue, née quelque part entre Paris et Dakar, il y a 60 ans cette année, en 1947, c'était l'année des grands crus du XXe siècle, et pas seulement pour les vins. Dans une période où l'Europe sortait à peine de la guerre, encore assommée, mais pleine du désir de renaissance, et la revue Présence africaine se révèle donc au monde, en 1947, dans son premier numéro, de novembre-décembre de cette année-là, sous le regard, et pourrait-on dire sous la plume même, de prestigieux parrains des deux continents. Alors il y avait bien sûr Léopold Sédar Senghor, il y avait André Gide, qui en rédige l'avant-propos, un texte que j'ai trouvé lumineux, en avance sur son temps. Il y avait Aimé Césaire, déjà, Richard Wright, Théodore Monod, Emmanuel Mounier, Albert Camus, et d'autres encore, bien d'autres. Et puis, aussi, bien sûr, sous l'impulsion très forte de son fondateur Alioune Diop, décédé en 1980, mais dont la veuve, Christiane Diop, tient toujours activement la barre de ce beau navire, à la tête de la maison d'édition Présence africaine, car Présence africaine, c'est une revue, mais c'est aussi une maison d'édition. Et c'est un beau navire, cette revue. Un très beau navire. Et comme tous les beaux navires et comme toutes les belles revues, c'est un exemple, s'il en est, d'esprit collectif. Et un esprit collectif ô combien important, en l'occurrence, s'agissant de promouvoir la présence africaine dans le concert des littératures du monde et donc de la pensée universelle. Et puis aussi pour nourrir le dialogue entre l'Afrique noire et l'Europe. Et c'est donc toute l'Afrique noire qu'il fallait rendre présente, et pas seulement l'Afrique francophone. D'ailleurs, Présence africaine deviendra rapidement une revue largement ouverte aux contributions en anglais, je dirais même une revue quasiment bilingue. Il s'agissait aussi de parler non pas simplement de l'Afrique installée sur le continent africain, mais aussi celle d'ailleurs, des Antilles, d'Amérique, d'Europe même. Car l'Europe est aujourd'hui aussi un terrain de dialogue interne entre Africains et Européens, migration oblige. Et pour en parler donc de cette revue, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans nos studios le directeur de la rédaction de Présence africaine, Romuald Foncoua. Romuald Foncoua, bonjour.
Bonjour.
Romuald Foncoua, vous êtes non seulement le directeur de rédaction de Présence africaine, mais vous êtes aussi un universitaire de renom dans le domaine littéraire. Vous êtes professeur de littérature française et francophone à l'Institut de littérature française de l'Université Marc Bloch de Strasbourg II. Vous avez été jusqu'en 2003 maître de conférence de littérature générale et comparée à l'Université de Cergy-Pontoise. Et vous avez contribué à la création du département des lettres modernes avec le professeur Bernard Mouralis, qui est un autre universitaire de renom, qui est membre du comité de rédaction de Présence africaine et qui est aussi membre du comité de rédaction de Rive Neuf Continent, dont nous avons parlé ici même dans une autre émission au fil des pages. Vous collaborez par ailleurs à bien d'autres organisations, et notamment l'Association Culture France, et vous avez publié de nombreux travaux de recherche et des essais littéraires, dont un, que je mentionne, en 2003 sur Albert Camus. Alors, si vous voulez bien, Romuald Foncourt, je voudrais vous proposer de commencer par essayer de cerner le sens profond de la démarche de votre revue, à travers ses débuts, son histoire, son actualité, mais pas seulement, car il faut parler du mot « présence ». Derrière le mot « présence », il y a le mot « absence ». Alors, est-ce qu'il s'agit de comparer, voire d'opposer même, la présence de l'Afrique, comme l'évoque Jacques Aulet dans le numéro 1 de Présence africaine? Est-ce qu'il faut opposer cette présence de l'Afrique à une certaine absence occidentale? Autrement dit, à son goût de l'abstrait. Alioune Diop, dans son introduction à ce premier numéro, qualifie la présence africaine de présence au concret, à sa succulence naturelle et immédiate. Tandis que l'Européen, lui, est tendu vers les périls de l'existence et se préoccupe de les conjurer. Je cite Alioune Diop. Alioune Diop ajoute également que les Africains seraient, alors là, je cite parce que c'est merveilleux comme phrase, seraient des bourgeois, là où l'Européen est un militant. C'est quand même une étonnante entrée en matière. Dans votre numéro 171, beaucoup plus récent, premier semestre 2005, le philosophe camerounais Ntsame Mbongo essaye, à partir de l'exemple du philosophe rationaliste éthiopien du XVIIe siècle, Zera Jacob, qui est un contemporain de Descartes, de démonter cette idée, n'hésitant pas à contredire un autre auteur de présence africaine, Elungu Pene Elungu, qui, dans un numéro antérieur de la revue, fait de la philosophie l'instrument de développement futur de l'Afrique, mais sans référence à son passé. Alors, première question, très claire, j'espère en tout cas, Romuald Foncourt, la philosophie africaine est-elle un produit du passé de l'Afrique ou le reflète simplement de son avenir? Est-ce que la philosophie éthiopienne, autrement dit, est un cas à part lié à l'histoire spécifique de ce pays? Ce qui est certainement le cas. Qu'est-ce qu'on peut dire de la philosophie africaine?
Écoutez, la question de la philosophie africaine est une très grande question qui pose d'abord celle du rapport entre l'Europe et l'Afrique. Pendant longtemps, on a pensé qu'en Afrique, on ne philosophait pas. La colonisation, d'ailleurs, avait supposé qu'en Afrique, il n'y avait pas de pensée philosophique. L'Afrique étant animiste, bien sûr, et religieuse, comme chacun le sait. Et dès la fin des années 50 et le début des années 60, il y a eu un très grand débat en Afrique noire portant justement sur l'existence ou la non-existence de la philosophie africaine, sur l'existence ou la non-existence des philosophes africains, l'existence ou la non-existence d'une pensée africaine. Et bien sûr, si le débat prend son essor au début des années 60, est initié en 1947 dans un ouvrage qui est simplement intitulé « La philosophie bantou » du révérend Père Temples. 1947, premier ouvrage publié par la maison d'édition Présence africaine, il faudrait le rappeler. Donc on revient à la maison d'édition.
Ah oui.
Et dans « La philosophie bantou » du révérend Père Temples, il avait établi un certain nombre de catégories, le Muntu, le Huntu, le Kintu, qui étaient des catégories de pensée africaine. Et effectivement, il débouchait sur l'idée qu'au fond, s'il y avait une philosophie africaine, celle-ci ne pouvait être qu'une ethno-philosophie et non pas une philosophie. Donc tout le débat est lancé au lendemain de la guerre et va ainsi se poursuivre jusqu'au début des années 60. Alors effectivement, est-ce qu'il est possible de pouvoir penser qu'il existe une philosophie africaine? Je répondrai oui, à condition de savoir ce que philosophie veut dire. Et je crois que d'une certaine manière, depuis la création de la revue, la question a toujours été posée de savoir où se trouvaient les philosophes africains, quelle pouvait être une philosophie africaine, et si philosophie il y avait, quelle pourrait être la spécificité de cette philosophie par rapport à celle de l'Europe. Je crois que, pour ne pas allonger le temps, il me semble que, d'une certaine manière, l'ensemble des discours tenus par la revue depuis 1947 sur cette question en particulier a visé à deux choses. D'une part, retrouver les grandes figures de la pensée noire, puisqu'il y en a eu quelques-unes, et qui ont existé en Europe, bien sûr. Et le premier à s'en être aperçu, c'est l'abbé Grégoire, 1808. Il faudrait quand même le rappeler de temps en temps. De la littérature des nègres, ouvrage dans lequel il retrace l'ensemble de tous les grands penseurs nègres, de tous les grands philosophes noirs, il utilise le terme. Et le premier d'entre eux étant bien sûr Amo. Ils vont suivre un certain nombre d'autres auteurs comme Edward Blyden. Mais c'est donc à partir de là que, d'une certaine façon, il s'agit de ressusciter ces grandes figures qui ont pensé à un certain moment donné, depuis le 19e siècle, peut-être même depuis plus tôt que ça, le 18e siècle, une certaine philosophie noire. Deuxième chose, il s'agissait de penser quelles pouvaient être les spécificités d'une certaine approche de la pensée africaine. Et là, le débat est un débat qui est lancé depuis le lendemain de la guerre, 1947 toujours, et qui n'a pas été jusqu'aujourd'hui arrêté, puisqu'on voit très bien que les deux pensées, à savoir ressusciter les penseurs africains et penser une certaine pensée africaine, est encore une des actualités de la revue.
Bien, Romuald Foncoy, on dit souvent que présence africaine doit beaucoup au mouvement panafricaniste. Alors la question qu'on peut se poser de ce point de vue, c'est peut-on vraiment parler de culture africaine au singulier ? Et Cheikh Anta Diop, dans son intervention au Congrès international des écrivains et artistes noirs de 1956, dont votre revue reproduit d'ailleurs tous les actes dans son numéro spécial paru en 1997, à l'occasion du 50e anniversaire de présence africaine, Cheikh Anta Diop donc en parle, et il persistera d'ailleurs par la suite dans son ouvrage bien connu « L'unité culturelle de l'Afrique noire », publié par Présence africaine également en 1960. Mais ce qui m'a frappé, c'est de voir combien cette pensée de Cheikh Anta Diop était contestée par la suite, et même dans ce numéro 171 dont on a parlé tout à l'heure, était contestée 50 ans plus tard sur ce plan par Jean Foncoué. Léopold Sédar Senghor lui-même également défend cette idée dans son intervention du congrès de 1956. Et si j'ai bien lu les actes de ce congrès, ça suscite une discussion, un débat dans la salle qui était très vif. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui ? Qu'en est-il, en quelque sorte, de la pluralité africaine ? J'évite délibérément le mot « diversité ». Il y a un sens un petit peu différent. On dit de l'Afrique qu'elle est, évidemment, multiple, extrêmement complexe dans ses origines, son histoire, le foisonnement de ses langues, ses cultures, etc. Autrement dit, question posée différemment, qu'est-ce que c'est que le panafricanisme aujourd'hui ?
Alors, qu'est-ce que c'est que le panafricanisme aujourd'hui ? Là aussi, c'est une question qui ne peut être abordée qu'à travers deux aspects. Un aspect qui est un aspect politique et un aspect qui est un aspect culturel. Je crois que je laisserai de côté pour l'instant la question politique et j'aborderai plutôt la question culturelle. Alors, la question culturelle du panafricanisme visait à tester de l'idée d'une unité africaine, d'une unité culturelle de l'Afrique. Alors, effectivement, si on se replace au lendemain de la Seconde Guerre, la notion de l'unité africaine est une notion qui, au fond, derrière l'acception culturelle, cache justement une dimension politique. Je m'explique. L'acception culturelle visait à rappeler que, contrairement à ce qu'on avait dit en Europe, on revient toujours au même sujet, l'Afrique avait une certaine unité. Elle avait d'autant plus une certaine unité, pour s'en tenir à la thèse de Cheikh Anta Diop, qu'elle était en amont de la culture et de la civilisation, qu'elle était antérieure à l'Égypte, qui elle-même est antérieure à la Grèce, et donc est antérieure à l'Europe. On ne pouvait donc pas, dans cette logique qui est une logique dans l'esprit de Cheikh Anta Diop très mathématique, supposer qu'il y avait une certaine unité de l'Europe. On n'a jamais dit les Europes au lendemain de la guerre, on a toujours dit l'Europe. Aujourd'hui encore, je n'ai pas l'impression qu'on dise les Europes. Donc, face à cette Europe, il était nécessaire de pouvoir poser une Afrique, puisque cette Afrique était bien antérieure à l'Europe. Alors, bien sûr, derrière cette idée d'une unité africaine, il y avait une unité de civilisation. Dans le terme de civilisation, il faudrait à la fois entendre un sens totalement racial. En Afrique, il y a des Noirs, en allant vite. Ou, pour dire, là aussi, en allant très vite, des anté-éthiopiens. En Afrique, il y a un certain rapport de religion qui n'est pas totalement semblable à la religion catholique. C'est, pour aller vite, alors qu'on avait dit qu'il n'y avait pas de religion en Afrique, c'est, disons, une religion qui peut être considérée comme étant une religion animiste, tous les Africains sont animistes. Et enfin, il y avait une certaine unité politique en Afrique, bien avant l'arrivée des Européens et bien avant l'arrivée de la colonisation, bien avant l'arrivée des esclavages. Donc, de tous ces points de vue, cette unité africaine est une unité qui est perceptible, comme le disait Cheikh Anta Diop, dans la manière qu'avaient les Africains, bien avant l'arrivée des Européens, de pouvoir, en quelque sorte, entretenir des relations entre eux. C'est cette idée qu'il conviendrait de poser au préalable pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que le terme d'unité ici a un sens qui est un sens que je pourrais appeler univoque. Bien que cela recouvre effectivement des différences, des diversités ou des multiplicités du point de vue linguistique, du point de vue racial, du point de vue administratif, du point de vue politique, mais que face à l'Europe, un certain nombre d'intellectuels africains refusaient en quelque sorte de percevoir en tant que tel à ce moment-là. Le combat étant un combat contre l'Europe. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce combat est dépassé, ou s'il n'est pas dépassé, il est atténué, et que de plus en plus, à la faveur du post-colonial, à la faveur des indépendances, on en revient justement à une sorte d'interrogation sur ce que peut être une certaine unité africaine. Mais cette interrogation vise beaucoup plus un sens politique, et c'est pour ça que je négligeais le sens politique tout à l'heure, vise beaucoup plus un sens politique, en s'interrogeant justement sur ce que les Africains ont fait de la prétendue unité supposée avant les indépendances, de ce que les organisations politiques africaines ont fait de cette prétendue unité ou de ce qui aurait pu être une certaine unité africaine. Et je crois que c'est à partir de là justement qu'il conviendrait de reposer aujourd'hui le problème qui est celui justement de l'observation autour des œuvres de Cheikh Anta Diop.
Merci. Je vous propose de faire une petite pause dans cette émission et de la reprendre très vite. Merci.
Africaine, nous baignerons dans une présence africaine. Des tapis étincelants, des doux, de Tombouctou, des coussins morts, des parfums forts, des meubles de Guinée du Congo. Nous baignerons dans une présence africaine. Nous baignerons dans une présence africaine. Présence africaine, une présence africaine, présence africaine, une présence africaine. Son bien épaisses de silence, des masques primitifs, des purs au mur, primitifs et durs, lampes amicales, ta tendresse adoucira l'obsession de cette présence. Dans une présence africaine, nous baignerons dans une présence africaine, présence africaine, une présence africaine, présence africaine, une présence africaine.
Chers auditeurs de Canal Académie, nous reprenons donc cette émission au fil des pages avec Romuald Fonkoua, directeur de la rédaction de Présence africaine. Et nous allons un peu parler, si vous voulez bien, maintenant de questions un tout petit peu plus terre-à-terre. Présence africaine a 60 ans, c'est un âge où on est tenté de regarder en arrière, mais l'actualité et l'avenir de Présence africaine... Il serait peut-être maintenant utile de voir un peu comment vous envisagez cela, et aussi comment vous organisez plus ou moins la revue, ses rubriques, son regard sur l'actualité, le poids relatif des différentes rubriques de la revue, et puis vos auteurs, comment vous choisissez vos auteurs en quelque sorte, Roméo Alfonquois.
Ben, je pense que la revue Présence africaine est une revue qui, dès le départ, avait été fondée dans deux buts. Le premier, c'était celui de faire advenir dans la société occidentale une pensée africaine, mais au sens large du terme Afrique, qui comprenait, vous l'avez dit tout à l'heure, non pas simplement l'Afrique noire, mais également les Amériques noires, bien sûr, et au-delà. Et d'autre part, également, il s'agissait de promouvoir les littératures africaines. Donc c'est quand même les deux axes qui sont, d'une part, la pensée et de l'autre, la littérature. Dans la notion de pensée, il conviendra d'entendre non seulement la philosophie, au sens strict, mais également au sens large, les sciences humaines. Et en littérature, il convenait non seulement d'entendre la création littéraire, les auteurs, mais également une pensée autour de la littérature ou alors une critique littéraire. C'est, si vous regardez le premier numéro de la revue Présence africaine de 1947, en gros, ce qui constitue les différentes rubriques de cette revue. Alors, on a essayé de maintenir, et ça n'a pas véritablement changé depuis 1947, au fil des différents directeurs de rédaction ou secrétaires de rédaction, comme on disait au départ, cela n'a pas changé véritablement et on tient toujours à ces deux rubriques. D'une part, c'est sciences humaines au sens large, pensée, et d'autre part, c'est la création littéraire et la critique littéraire. Voilà les deux grands, j'allais dire, les deux grandes assises, en quelque sorte, n'est-ce pas, du contenu de la revue.
Bien, écoutez, je vous propose de prolonger encore un peu la question précédente. Moi, ce que j'aimerais bien savoir également, Roméo Alfonquois, c'est le rôle qu'une revue comme la vôtre, comme Présence africaine, peut jouer dans quelque chose qui m'apparaît actuellement, aujourd'hui fondamental et crucial même, l'énoncé d'une véritable politique de développement pour l'Afrique. Comment est-ce qu'une revue comme Présence africaine peut aider à renouveler l'esprit de cette coopération, inciter l'Europe, en quelque sorte, à porter un autre regard sur l'Afrique? Un regard, d'ailleurs, que Gide, André Gide, lui-même, appelait déjà de ses voeux en 1947 dans son avant-propos du numéro 1 de la revue. Et l'appel d'André Gide est à l'évidence un appel qui reste d'actualité. L'Europe a à l'évidence des leçons à recevoir de l'Afrique. Alors, 60 ans après, est-ce que l'Europe va enfin le comprendre ? La solidarité, l'esprit collectif, la pluralité linguistique vécue au quotidien. Moi, j'aimerais bien que l'Europe, par exemple, et la francophonie institutionnelle soutiennent davantage les langues africaines. Ce serait important. Et puis, dans le domaine artistique, cette extraordinaire manière de créer de l'art en métissant les expressions artistiques. En faisant, par exemple, interagir la sculpture, le chant, la danse, la poésie, de façon à communiquer à celui qui regarde, et celui qui regarde est plus un acteur qu'un spectateur, en quelque sorte, communiquer à celui qui regarde ce que Léopold Sédar Senghor appelait la surréalité de l'œuvre, son sens plus que son signe. Alors, comment faire, Roméo Alfonquois, pour que l'Europe, qui sait si bien dresser des frontières entre les différents métiers de la culture, écoute sur ce plan la voix de l'Afrique.
Mais j'en reviendrai au premier numéro de la revue. La présence africaine est justement une présence qui ne se fait pas seulement en Afrique, contre les colonisations, mais c'est une présence qui se fait aussi en Europe, contre une certaine manière de penser. Lorsque je dis une certaine manière de penser, ça n'est même pas une certaine manière de penser à l'européenne. C'est une certaine manière de penser que l'Europe s'est fixée elle-même à partir de Descartes. Alors, vous connaissez très très bien le débat que Senghor avait souligné sur l'erreur de Descartes dans la pensée occidentale. Ce que Descartes a mal compris de la pensée grecque. Ce n'était pas la rationalité qu'il fallait poser en premier, c'était l'émotion, disait Senghor. On le lui a beaucoup reproché. Peut-être un tout petit peu rapidement, et en y réfléchissant aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'avait peut-être pas aussi tort que cela, puisque penser, c'est bien commencer à réfléchir par l'émotion. On ne pense pas, sinon aussi on n'est pas ému. Or, l'émotion, c'est à la fois le lieu d'une sensation, d'un sentiment, mais c'est aussi le lieu d'une pensée. Tout est mêlé.
Et ça rappelle Bergson.
Ah ben, c'est exactement cela, c'est Bergson. Et c'est ce que Senghor appelle justement la seconde révolution. Celle, bien sûr, de 1889. Et oui, c'est bien du bersonisme. Je dis, Senghor n'était pas bersonien pour rien. Et très précisément, il s'agit de rappeler que l'Europe a oublié ce qui avait été à l'origine de sa pensée, cette sorte de mélange entre l'émotion et la raison. Et a coupé le monde en deux, a coupé la pensée en deux, coupé l'émotion et la raison. Alors du coup, nous sommes allés, n'est-ce pas, dans une sorte de classification raisonnable, rationnelle, en oubliant ce qui est au fondement de cette raison, c'est effectivement l'émotion. Et je crois que la revue, de ce point de vue, rappelle ce qu'est la pensée, à savoir le mélange des deux. Et elle le fait d'une manière que je trouve, de mon point de vue, assez intéressante, à savoir que, vous avez dit tout à l'heure que 60 ans, c'est l'année des bilans. Je vous dirai en Afrique, 60 ans, c'est l'année des jeunesses. Parce qu'il n'y a jamais de vieillesse en Afrique. C'est la sagesse africaine et on ne coupe pas justement les choses comme ça en disant l'année de la jeunesse, l'année de la vieillesse. Non, c'est toujours l'année de la jeunesse. Et d'une certaine façon, il s'agit de rappeler dans le domaine des arts, dans le domaine de la pensée comme dans le domaine de la culture que nous sommes toujours en pleine jeunesse. Et de ce point de vue, il me semble que la revue devrait, ou c'est ce qu'elle a fait jusqu'en 1947, mais depuis 1947, mais personne ne l'écoute, rappelle presque toujours que les cultures et les civilisations ne sont pas choses que l'on peut découper, que l'on peut saucissonner entre raison et émotion. C'est pas possible. Que le développement ne se fait pas justement en de la raison contre l'émotion. Ça n'est pas possible. Et c'est bien parce que pendant longtemps, le développement s'est fait de la raison contre l'émotion que nous sommes arrivés justement à cette sorte de coupure. Il existe effectivement une manière de pouvoir penser le développement en Afrique noire aujourd'hui dont on peut prendre graine en Europe. Et je ne suis pas certain que l'on ne l'ait pas déjà fait. Lorsque j'entends les discours aujourd'hui sur le développement durable, sur le co-développement, je me dis qu'on a quand même fait depuis 60 ans des avancées. Et je ne suis pas certain que la revue Présence africaine n'y soit pas pour rien. Ou alors les pensées qui ont tourné autour de Présence africaine n'y soient pas pour rien. Ça n'est qu'un début. Il faudrait peut-être qu'aujourd'hui, on arrive justement à repenser, si j'ose dire, les manières par lesquelles, en raison des catastrophes qui nous attendent, peut-être, ou malheureusement, on soit peut-être obligé, n'est-ce pas, de repenser nos modes de pensée, justement, nos manières de développement, notre forme de co-développement, loin des différents systèmes qui ont été mis en place pendant les colonisations et après la colonisation et qui ont fait du tort, justement, au rapport entre l'Afrique et l'Europe. Et il me semble que la revue Présence africaine, dans le dialogue qu'elle avait initié en 1947, a pris sa part dans cette ambition et que cette part n'est pas entendue ou alors, en raison de l'histoire, elle l'a oublié un tout petit peu aussi au passage.
Romuald Fonquoy, je vous propose de, parce qu'on approche tout doucement de la conclusion de cette émission, et je vous propose de terminer notre entretien en faisant parler quelqu'un d'autre. Puisque, après tout, nous sommes sur Canal Académie, la radio des académies de France. Et je vous propose donc de terminer par un petit clin d'œil en hommage à notre grand académicien, Léopold Sédar Senghor, évidemment, en lisant, si vous le voulez bien, un court extrait de sa contribution au premier numéro de Présence africaine, qui était simplement un morceau de poésie. Mais comme il le dit lui-même, d'ailleurs, en présentant ce morceau de poésie, ces morceaux de poésie, il devrait, pour bien faire, être accompagné par des instruments de musique africains et même, pourquoi pas, par des danses. Alors, on ne va pas évidemment se mettre à danser ici, mais c'est ce qu'il faudrait faire normalement. Le poème que vous allez lire, je crois, devrait normalement être accompagné par 3 tam-tams. Alors, je ne sais pas si vous allez faire le tam-tam, je ne vous propose pas de le faire moi-même, mais si vous voulez bien, Romuald Fonquoy, nous lire ce poème de Léopold Sédar Senghor.
Je suis très mauvais musicien, je vais essayer d'être à peu près un bon lecteur d'un poème de Senghor tiré du chant de l'initié et qui est justement sa contribution au premier numéro de la revue Présence africaine. Voilà qu'émerge de la nuit, pur, l'autel vertical et son front de granit. À ses pieds, la ligne bleu-vert de ses sourcils comme l'ombre frais d'un kauri. Au pèlerin, dont les yeux sont lavés par le jeûne et les cendres et les veilles, apparaît au soleil levant, sur la suprême dent, la tête du lion rouge. En sa majesté surréelle, ô tueur, ô terrible, et je cède et défaille. Je n'ai pas une corne d'antilope, je n'ai qu'une trompe pleine de vide. Ma pleine besace intégrale, ah, que tu me foudroies de tes éclairs jumeaux, formidable douceur de leur rugie, délice inexorable de leurs griffes, et que je meurs soudain pour renaître dans la révélation de la beauté. Silence, silence sur l'ombre. Sourd tam-tam, tam-tam lent, lourd tam-tam, tam-tam noir.
Merci Romuald Foncourt, on a presque entendu le tam-tam, c'était magnifique. Merci en tout cas de ce très beau moment passé ensemble avec nos auditeurs, et merci l'Afrique.
Merci.